qui a eu lieu à la croix. L'innocent qui est mort pour les coupables, pour nous donner la vie. Seigneur, parle-nous ce matin. Sauve-nous s'ils ne sont pas encore sauvés. Et transforme nos vies si nous sommes déjà sauvés. À la lumière de la croix, au nom de Jésus. Amen. J'imagine que si vous avez suivi les nouvelles dernièrement, vous avez suivi ce qui s'est passé à Trèbes, en France, au supermarché au sud-ouest de France. Vendredi, vous avez entendu parler de ça, il y avait un djihadiste qui est entré dans un supermarché, qui a tiré sur les gens. Et vous allez peut-être connaître le nom d'Arnaud Beltram. Arnaud Beltram, le gendarme, 44 ans, qui est mort samedi parce qu'il a pris la place des otages. Ils ont fait un échange. Ils ont libéré les otages afin que lui devait rester avec le djihadiste. Et lui, il est mort. Mais les otages étaient vivants. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit ceci: il a fait le don de sa vie pour protéger nos concitoyens. Le procureur a dit: Beltram a fait le choix, le gendarme, au péril de sa vie, de prendre la place des otages retenus à l'intérieur du supermarché. Et le ministre de l'Intérieur a dit ceci: mort pour la patrie. Jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. Il est mort afin que les autres puissent vivre. Et lorsqu'on célèbre la vie d'Arnaud Beltram, on va sûrement mettre un accent particulier sur sa mort, n'est-ce pas? Ce serait bizarre de ne pas le faire. Bien sûr, on va parler de sa vie. Il y aura un hommage cette semaine en France. Mais c'est sa mort qui est plutôt remarquable, n'est-ce pas? Lui qui a pris la place des autres. Vous imaginez les otages maintenant en vie grâce à son sacrifice. Le parallèle n'est pas exact, mais je pense que cela peut nous aider à comprendre pourquoi les chrétiens parlent tellement de la croix de Jésus, la mort de Jésus. Après tout, le symbole du christianisme, c'est la croix. Ce n'est pas la Bible pour représenter les enseignements de Jésus. Ce n'est pas un berceau pour parler de son entrée dans le monde. C'est sa croix, la croix, pour parler de la mort de Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'on insiste tellement sur la mort de Jésus? C'est parce qu'il est mort à la place des autres. C'est par sa mort qu'il sauve les gens. Et nous allons essayer de comprendre quel est le sens de la mort de Jésus. Nous allons voir un verset en particulier, si vous avez la Bible devant vous, 2 Corinthiens 5, verset 21. Et ce verset va nous expliquer ce qui s'est passé à la croix. Verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, jamais péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est ça qui s'est passé à la croix. Et donc nous allons parler de ce qu'on appelle la substitution pénale. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est une substitution pénale, un échange glorieux. Les faits de base, la crucifixion était une forme de torture, de peine de mort pour les criminels. Jésus a été condamné par les Juifs. Ils l'ont fait paraître devant les Romains afin qu'il obtienne la peine de mort. Et pourquoi Jésus est-il mort? Mais d'un point de vue humain, on pourrait dire que c'est parce que les gens n'aimaient pas son message. Et certaines personnes pensent là encore aujourd'hui, la seule raison pour laquelle Jésus est mort, c'est parce que les gens n'aimaient pas ce qu'il avait à dire. Mais la Bible va beaucoup plus loin que cela. Est-ce que vous avez vu dans le verset qui est l'acteur lors de la croix? Verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc, qui était en train d'agir lors de la mort de Jésus? C'est Dieu lui-même. Il est en train de faire quelque chose lorsque Jésus est cloué à la croix. Ce n'est pas seulement les hommes. C'est Dieu qui agit. Parce qu'avant tout, la croix, c'est une mission de sauvetage de la part de Dieu. un Dieu d'amour qui a voulu sauver les gens comme vous et moi. À la croix, il y a un échange glorieux, le Fils innocent de Dieu. C'est comme ça que Jésus est décrit, n'est-ce pas, au verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché. » Il n'a point connu le péché. Alors, le péché, on n'en parle pas trop souvent de nos jours, n'est-ce pas? Est-ce que c'était la dernière fois que vous avez parlé de ça autour d'une tasse de café au boulot? Vous avez parlé du péché ensemble, vous avez peut-être dit, voilà, je pense que la raison pour laquelle il y a cette ambiance, mauvaise ambiance au boulot, c'est à cause du péché les uns des autres. Non, on ne parle pas de ça. Ou les professeurs de l'université, quand est-ce que c'était la dernière fois que les professeurs de sociologie, ils ont dit, mais les problèmes dans le monde, en fait, ça vient du péché, finalement. Non, c'est exclu de tout notre discours, n'est-ce pas, le péché. Et si on en parle, on pense que c'est quelque chose de pas très grave, les petits péchés, se faire plaisir avec un petit quelque chose qu'on ne devrait pas vraiment faire. Mais l'idée du péché en tant qu'acte qui offense notre Dieu créateur, un rejet de notre créateur, on n'aime pas penser dans ces termes. Et pourtant, la Bible dit que le péché, c'est rejeter notre Créateur. Vivre dans son monde, sans prêter attention à ce qu'il nous dit concernant la bonne manière de vivre. Et nous sommes tous pécheurs selon la Bible. Même si nous pensons parfois que nous sommes plutôt victimes des mauvaises actions des autres, et ça peut être vrai, mais il est aussi vrai que nous sommes chacun responsables et coupables pour nos propres actions. Et pour cela, nous méritons la condamnation de la part du juge, de Dieu lui-même. Nous méritons de passer l'éternité loin de la bonté de Dieu et faire face à sa colère dans un endroit que la Bible appelle l'enfer. Mais Dieu, dans son amour, a pourvu un remède à notre problème. C'est Jésus qui n'a jamais commis la moindre faute qui a pris notre place à la croix. Il a vécu la vie parfaite, il n'a jamais menti, jamais triché, jamais dit quelque chose rien que pour blesser un autre. Jamais été égoïste. Jamais connu le péché. Et donc, il était qualifié de manière unique pour prendre notre place, pour nous sauver. Pour certains boulots, il faut avoir des qualifications uniques, n'est-ce pas? Donc, par exemple, pour faire le design d'une toute nouvelle tour à Bruxelles, s'il faut faire cela, il faut apporter beaucoup de preuves de compétences en architecture pour remporter le contrat, n'est-ce pas? Il ne faut pas juste bricoler quelque chose sur le dos d'une feuille de papier. Il faut qualifier de manière unique pour faire cela. Et pour sauver l'humanité en rébellion contre Dieu, il fallait quelqu'un qui était qualifié de manière unique, un homme parfait. Car un coupable ne peut pas payer pour un autre. Il devait payer pour ses propres crimes. Il faut un innocent pour le faire. Et donc, Jésus est l'homme innocent qu'il fallait. Mais pas un simple homme. Lisons le verset 19, si vous avez la Bible devant vous. Verset 19 du chapitre 5. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Dieu était en Jésus. Donc, 100% Dieu et 100% homme. Jésus. Nous avons du mal à comprendre cela, mais c'est ce que la Bible affirme. Le Fils de Dieu qui a toujours existé a pris sur lui une nature humaine et est venu dans notre monde, pleinement Dieu et pleinement homme, pour prendre la place des autres hommes à la croix et pour subir en lui-même le châtiment que nous méritions. Et donc, je cherche mes aides du Dieu, ça, on peut représenter Jésus avec ça. Le blanc pour représenter sa vie parfaite. Il n'a jamais rien fait de mal. Il n'a pas connu le péché, dit ce verset. Et on va voir ce qu'il a fait pour nous. Et nous, par contre, on est tout noir avec notre péché. Bien sûr, il y a des choses qu'on a bien fait dans la vie, mais avec toute notre rébellion contre Dieu, nous, on est noir. Et qu'est-ce que Dieu a fait à la croix, alors? Verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Dieu le Père a fait que son Fils devienne en quelque sorte l'incarnation du péché à la croix. C'est très important cela. Dieu a mis sur son Fils tous les péchés de tous ceux qui allaient croire en lui. Et Dieu a puni le péché dans son Fils. Jésus a payé le prix plein lors de sa mort pour tous nos péchés. Et ça, c'est d'une substitution pénale. Une substitution, on sait ce que c'est. Comme en foot, si vous regardez un match de foot, vous allez savoir si un joueur joue mal. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enlever du terrain et envoyer un remplaçant à sa place. Ça, c'est une substitution. Quelqu'un prend la place de quelqu'un d'autre. Et Jésus, à la croix, a pris la place des pécheurs. L'innocent est mort à la place des coupables. Et c'est une substitution pénale, c'est-à-dire une substitution en lien avec le châtiment pénal ou punition. Nous méritons tous de faire face à la colère de Dieu, mais Jésus, à la croix, a pris sur lui la pleine force de la colère de son Père pour nous sauver du jugement de Dieu. Le châtiment que nous méritions, la mort, la colère de Dieu, Jésus les a subis à notre place. Au cœur de la croix se trouve cette substitution pénale. Et peut-être que cela vous semble assez barbare comme idée. Vous pensez, mais un Dieu qui punit son propre Fils, mais c'est quoi cette histoire? Mais rappelons-nous le verset 19. Qui était en Christ? Dieu était en Christ. Dieu lui-même, donc oui, Dieu a déversé sa colère sur la croix, mais il a aussi prise en lui-même dans la personne de son Fils. Et ce n'est pas que Jésus allait à la croix contre son gré. Il savait ce qui lui attendait, ce qui l'attendait à la croix. Et il est allé par amour pour nous. Voyons un autre texte qui parle de cela de manière très claire. Ésaïe 53, dans l'Ancien Testament, qui parle de la gloire de cette substitution pénale. Ésaïe 53, c'est à la page 729, si vous avez les Bibles devant vous. Et cela confirmera le bien fondé de cette idée de la substitution pénale. Dieu a transféré sur Christ nos péchés. Il a puni Christ à notre place. Et c'est glorieux. Verset 3 jusqu'au verset 6. Ésaïe 53, verset 3 à 6. « Méprisé et abandonné des hommes. » Il parle de Jésus des centaines d'années avant sa venue. « Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Au cœur de la croix, c'est le fait que notre culpabilité a été transférée sur Jésus. Jésus a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Il a été blessé à cause de nos transgressions. L'Éternel Dieu a fait retomber sur lui nos fautes. Et on peut l'illustrer ainsi. Dans Jésus l'innocent, imaginons que Dieu au plafond quelque part. Jésus l'innocent qui n'a jamais rien fait de mal. Et nous, les coupables. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris sur lui à la croix tout notre péché. Et son Père déverse sa colère sur lui afin que nous puissions être pardonnés. Et nous allons voir la suite de cela parce qu'il y a une deuxième moitié de l'échange glorieux aussi. Mais c'est au centre de la foi chrétienne cela. Jésus prend le châtiment que nous méritions afin que nous soyons sauvés de la colère de Dieu. Et ça vaut la peine à ce stade de mentionner certaines interprétations inadéquates de la mort de Jésus qu'on retrouve de nos jours. Des enseignements qui minimisent ou qui nient cet aspect de la substitution pénale. Ça va peut-être vous surprendre, mais l'Église catholique ne croit pas à la substitution pénale. Ça m'a surpris. Moi, je fais une thèse de master à ce sujet, la doctrine catholique de la mort de Jésus. Mais ça m'a surpris de voir qu'ils rejettent cette idée que Jésus a pris sur lui le châtiment que nous méritions. Bien que cela semble évident à partir d'Ésaïe 53, 1 Pierre 2, 2 Corinthiens 5, etc. Ils pensent que Jésus a offert sa vie à Dieu. Il est mort pour nos péchés dans ce sens-là. Et Dieu était tellement ému ou impressionné par le sacrifice de Jésus qu'il peut fermer ses yeux sur nos péchés. Mais où est la justice dans ce schéma-là? Comment est-ce que nos péchés sont punis? Dieu doit punir le péché. Et dans son amour, il l'a fait dans la personne son Fils. Ou d'autres disent que la mort de Jésus à la croix, c'était un bel exemple d'un sacrifice de soi. C'est un exemple à suivre, mais rien de plus. Peut-être vous avez entendu parler de cette idée. Mais de nouveau, il faut rejeter cette idée. Il est vrai que la croix est un exemple à suivre, mais seulement parce que la croix nous sauve, parce que Jésus a pris notre place. La substitution pénale, c'est au cœur de la croix. Mais quels sont les bienfaits qui découlent de cette substitution pénale? Alors, la mort de Jésus, quels sont les bienfaits qui découlent de cela? Premièrement, il y a le pardon de nos fautes. Relisons le verset 19, si vous êtes en 2 Corinthiens, de nouveau. Le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. À la croix, parce que Christ a payé pour nos fautes, elles nous sont enlevées et pardonnées. C'est extraordinaire. Mais si nous croyons en Jésus, Dieu ne va jamais agir envers nous selon ce que nous méritons. Et je ne sais pas ce que vous avez fait que vous pensez être impardonnable devant Dieu. Vos secrets honteux, toutes les choses qu'on a faites, dites, peut-être les autres ne sont pas conscients, ou peut-être c'est contre nos proches. Et on pense, mais comment est-ce que Dieu pourrait me pardonner pour cela? Est-ce que vous voyez à la croix? Jésus a pris sur lui toutes nos fautes. Toutes nos fautes sont lavées. Il éloigne de nous nos fautes, aussi loin que l'Occident est de l'Orient. Je connais quelqu'un qui a été motivé par la croix pour pardonner les autres par la suite. Donc, connaissant le pardon que Dieu lui a donné, il a pu pardonner les autres. Sa femme l'a trompé il y a quelques années. Mais de les voir ensemble maintenant, parce qu'il a compris la croix, il a pu pardonner, et on ne devinerait jamais ce qui s'est passé entre eux. C'est la croix qui nous permet de pardonner les autres. Parce que la croix, c'est à la croix que nous sommes pardonnés. Dans les bienfaits qui découlent de la croix, premièrement le pardon. Et deuxièmement la justification. Relisons le verset 21, notre verset, la deuxième moitié maintenant. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc non seulement Jésus prend sur lui nos péchés, mais il nous donne ensuite sa vie parfaite. Donc l'illustration continue. Donc Jésus, l'innocent, il a pris sur lui nos péchés afin que nous, on reçoive en retour sa vie parfaite devant Dieu. Donc comment est-ce que Dieu voit la personne qui a cru en Jésus? Comme ça? Non. Comme ça, pur, blanc comme la neige. C'est ça ce que le verset 10 dit, n'est-ce pas? Afin que nous devenions en Jésus justice de Dieu, parce que nous sommes en lui par la foi, nous avons sa vie parfaite qui est comptée comme la nôtre. Et ça, c'est extrêmement encourageant, n'est-ce pas? Lorsqu'on est découragé par notre péché, comment est-ce que Dieu nous voit? Toujours comme un pécheur? Non. Comme son propre fils bien-aimé. C'est glorieux. Et tout cela découle
de la croix.
La troisième chose, c'est nous pouvons être réconciliés à Dieu, verset 19, par la croix nous sommes réconciliés à Dieu, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Auparavant, nous étions ennemis de Dieu par nos fautes, nos péchés, destinés à faire face à sa colère. Mais parce que Jésus l'a pris et il nous a donné sa vie parfaite, nous sommes les bien-aimés de Dieu, non plus des ennemis, et même pas, ce n'est pas comme deux pays après une guerre, parce que ce n'est pas toujours qu'on est des meilleurs amis tout de suite après une guerre, même si la guerre est terminée, ça ne veut pas dire qu'on est des meilleurs amis, mais plus que cela, Dieu nous voit comme son fils bien-aimé, réconcilié, des meilleurs amis. Et la croix nous donne une vie nouvelle, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si on a envie de tout redémarrer, repartir de zéro, c'est la croix qui permet qu'on le fasse. La croix nous donne une vie nouvelle. Et nous pouvons vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour Jésus maintenant. Donc, tous ces bienfaits découlent de la croix, de cette substitution pénale de notre Sauveur glorieux. Et voyons, troisièmement, notre réaction face à cette mort, notre réaction. Donc, d'abord, il faut remarquer que si ce n'est pas la mort de Jésus que nous pouvons être réconciliés avec Dieu, il faut savoir que toute autre tentative d'entrer ou de rester en bonne relation avec Dieu est exclue d'office. Si c'est par la mort de Jésus qu'on peut entrer et rester en bonne relation avec Dieu, toute autre tentative est vouée à l'échec. C'est nos bonnes œuvres, par exemple, notre assistance à l'Église, Marie, Mohamed, tout ce que l'on veut, les prières, ça ne peut pas aider. Les autres religions, non. Si on pouvait être sauvé rien que par nos bonnes œuvres, pourquoi Dieu aurait-il envoyé son propre fils pour mourir pour nous? La prochaine fois que quelqu'un vous dit, non, je peux être sauvé juste en faisant de bonnes choses, prenez le temps d'expliquer à la personne la croix de Jésus. Deuxièmement, il faut savoir que la mort de Jésus ne sauve pas les gens de manière automatique. Juste parce que Jésus est mort il y a 2000 ans, c'est bon, on est tous pardonnés. Non, il faut accepter cela par la foi. Il faut prendre le pas d'être réconcilié avec Dieu. Paul dit à la fin du verset 20, n'est-ce pas, soyez réconciliés avec Dieu. Il faut prendre ce pas. Et si nous sommes croyants, nous devons être rassurés dans notre marche avec le Seigneur, n'est-ce pas, de revenir à la croix toujours. Est-ce qu'on a des doutes? Comment Dieu peut m'accepter, moi, après la semaine que j'ai eue, après tel acte, telle pensée? Revenons à la croix, là où Jésus a pris sur lui nos péchés. Et il nous a donné sa vie parfaite. Et il faut remercier Dieu pour la croix, la garder au centre de notre vie. Est-ce que nous avons l'habitude de remercier Dieu pour la croix? C'est toujours triste, je pense, lorsque les gens remercient Dieu davantage pour leur santé que pour leur salut en Christ. Les gens souhaitent les uns les autres bonne santé au début de l'année, et c'est bien, mais le salut avant toute autre chose, n'est-ce pas? C'est ça la priorité biblique, la croix de Jésus. Verset 15, si on a compris la croix, notre vie ne sera jamais la même. Verset 15. Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent maintenant, les chrétiens, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Comment vivre pour nous-mêmes, sachant que Jésus est mort pour nous? Vivons pour lui. Et soyons des ambassadeurs pour Christ, comme Paul ici, qui proclamant le message de la réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu. Une question pour terminer, si vous n'êtes pas encore chrétien, et une question si on est déjà chrétien. chrétiens, pour les non-chrétiens, peut-être vous avez compris pour la première fois le vrai sens de la mort de Jésus. Pas juste un exemple à suivre, un amour sacrificiel, mais vraiment, il prend sur lui nos fautes, le châtiment que nous méritions, afin de nous offrir le pardon. Est-ce que vous allez être réconciliés avec Dieu par la croix aujourd'hui? C'est le moment de le faire. C'est aujourd'hui le jour du salut, dit Paul. Prenez cette occasion. Venez me parler après, je serai ravi de le faire, de parler avec vous. Et pour les chrétiens, est-ce que vous vous émerveillez devant la réalité de la substitution pénale, la croix de Jésus, lui qui a pris nos fautes pour nous donner sa vie parfaite? Chérissons la croix. Chérissons Christ, notre substitut pénal. Et le chant l'exprime très bien. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime. J'ai pris ton châtiment. Et comment on peut vivre à la lumière de cela? Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Prions ensemble. Ô notre Père, quel amour, quel sacrifice. Le Fils de Dieu s'est donné pour nous. Lui, l'innocent, il a pris notre place à la croix. Il a pris toutes nos fautes, tout le châtiment qui nous était destiné. C'est presque trop beau pour imaginer, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Combien nous voulons te remercier de nouveau ce matin. Et que nous puissions vivre à la lumière de cette croix. Que nous puissions vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Que nous puissions vivre en étant rassurés de notre plein pardon, de la vie parfaite de Jésus qui est comptée comme la nôtre devant toi. Et que nous chérissions la croix tous les jours de notre vie. Nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.